Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 5, le juif, l'esclave. Un voyageur sur le soir dans un paysage aride est arrêté par un torrent largement extravasé. Un vieux pont s'élève au milieu, mais rompu des deux côtés. Deux arches, deux ou trois piles subsistent inaccessibles. De quel âge cette construction? On aurait peine à le savoir. On n'en peut même apprécier la véritable hauteur. L'inabordable ruine, hérissée d'arbustes sauvages, a un grand air solennel. Et si la nuit se faisait, il grandirait ce fantôme et nous ferait presque peur. C'est précisément l'effet qu'a produit si longtemps la Bible des Juifs. L'effet d'une ruine isolée qu'on ne verrait qu'à distance. On en raisonnait au hasard, n'ayant ni l'optique sérieuse pour la bien examiner, ni les moyens d'étudier les approches d'un tel monument. Je veux dire, les peuples voisins ou parents mêlés aux Juifs, les grands empires où ils furent transplantés, où ils vécurent. Tout cela manquant, la Judée, restée seule, trompait le regard. Avec la fantasmagorie du mirage religieux, les nuages irisés ou sombres du mysticisme allégorique, elle a rempli tout l'horizon, que dis-je, elle a caché le monde. Notre siècle n'est pas resté contemplateur immobile du monument mystérieux. Il ne l'a ni adoré, ni démoli, mais complété, rebâtissant des deux côtés les piles et les arches détruites. La grande ruine du milieu n'a plus son isolement. Par cela seul, tout est changé. Plus de fantasmagorie. On approche, on voit, on touche, on mesure. D'un bord à l'autre, embrassant tout le paysage, on voit, dégagés du brouillard, les colosses de l'Égypte, de la Perse, les deux maîtres et docteurs de la Judée. On voit près d'elle et tout autour ses parents, les Syriens, Phéniciens et Carthaginois. C'est là le grand coup de lumière. On avait cru que ces peuples étaient tout à fait disparus. Alexandre ayant ruiné Tyre, Scipion, Carthage, la Judée restait héritière de tout un monde détruit. Il n'y eut jamais, il est vrai, une si terrible ruine. Les débris, fragments, épaves, brisés, rebrisés, sont de plus dispersés de tous côtés. Une patience miraculeuse pouvait seule les retrouver. Cette recherche, si difficile, s'est accomplie cependant. Des Beauchards et des Selden, jusqu'aux Munters, aux Mauvers, on a obstinément cherché, ramassé, recueilli. Sur Carthage, qui fut détruite avec tant de soin, on a retrouvé des milliers de textes instructifs. Plus nombreux infiniment sont les textes qu'on a réunis sur les dieux, les mœurs, le commerce, le génie de la Phénicie. Ces Phéniciens sont tout à fait identiques aux Cananéens, population indigène de la Judée, qui y subsista toujours au milieu des Juifs et qui en différait très peu de mœurs et d'habitudes. Comment la Judée eût-elle pu s'isoler entièrement? Elle n'est en réalité qu'une bande étroite de collines que le Jourdain serre à l'est, à l'ouest, la côte, les ports philistins et phéniciens. Au plus large, elle a 15 lieues. La côte offre les grosses villes philistines, Gaza, Azote, Ascalon. Puis les puissants ports phéniciens, Sidon, Tyre, etc. Population exubérante, tournée tout à fait vers la mer, qui s'empara plusieurs fois du triste pays des montagnes, mais plus souvent le dédaigna. À l'Orient du Jourdain, la Judée hors d'elle-même avait encore quelques tribus qui, dans les basses vallées, trouvaient un peu de pâturage. Mais les hauteurs sont affreuses, noires d'un lugubre basalte. Strabon dit avec raison que la Judée en général est un très mauvais pays. Il est toutefois varié. il pouvait cultiver des vignes qu'on soutenait en terrasse, un peu de blé aux oasis que forment naturellement le Jourdain et quelques ruisseaux. Toutefois, les voyageurs de bonne foi à toute époque disent qu'en y entrant, on sent comme une grande sécheresse et un ennui infini. Sauf la petite Galilée et le pays de Naplouse, tout est morne et monotone, terne, gris de cendre. Le bon sens indique assez que pour préférer ce pays à la riche Syrie de Damas, à la grasse contrée des géants, à la charmante Ascalon, à Tyr, Sidon, reine des mers, il fallait des raisons bien fortes. La Judée, dans les deux points centraux de ces deux royaumes d'Israël et de Juda, semblait offrir deux asiles, deux refuges naturels. Au nord, la close vallée de Samarie est défendue de toutes parts. Au midi, Jérusalem, sur un point très haut qui domine, n'est abordée que par des gorges faciles à défendre, la vallée de Jérémie et la vallée des Térébintes. Le juif admet, appelle, invite autant qu'il peut l'étranger. Il lui promet bonne justice, Deutéronome 1, 16 et 24, lui promet sa part de terre égale à celle du Juif, Ézéchiel 47, 22. Il lui promet de l'admettre à ses fêtes, à ses festins, Deutéronome 16, 11, 14, et bien plus à ses prières. L'étranger sera en Judée comme il serait dans son pays. Le Juif l'aime comme lui-même, Lévitique 19.34. Cela est fort. Et quel est cet étranger? On le voit, c'est un fugitif qui arrive sans habit ni subsistance. Dieu l'aime et lui donnera de quoi manger et se vêtir. Deutéronome 10.18. Un peu plus loin, le jour se fait mieux encore. L'étranger peut être un esclave. L'esclave qui se réfugie parmi vous ne sera point rendu à son maître. Il demeurera où il voudra et trouvera le repos, la sûreté dans nos villes sans qu'on puisse l'inquiéter. Deutéronome 23, 15, 16. Dès lors, nous voilà rassurés. Avec ce seul mot, le pays le plus triste, le plus stérile, ne sera jamais désert. Cette politique qui veut à tout prix des habitants est d'autant plus remarquable qu'on la trouve ici chez un peuple économe, avide même, on le voit au livre des rois, dans Jérémie, etc. Les Juifs sont entièrement étrangers aux sentiments chevaleresques de l'arabe, encore plus à la grandeur généreuse, souvent imprudente, des races indo-celtiques qui éclatent dans leur poésie, du Ramayana au chant namais, des Nibelungen au chant français de Roland et de Merlin. Le juif est, dès l'origine, homme de paix, homme d'affaires. Son idéal n'est ni le guerrier, ni l'ouvrier, ni l'agriculteur. Nomade jadis comme berger, plus tard il revient à sa vie nomade comme colporteur, comme banquier ou brocanteur. La Bible pose fortement, simplement cet idéal. C'est Jacob qui a le type et le nom consacré du peuple, Israël. Jacob est homme pacifique qui demeure à la maison, tandis que son frère Ésaü, l'Iduméen, laboure ou chasse. Ce frère, tout velu, a la peau d'une bête. Jacob n'a point de poils. Jacob, berger comme Abel, est béni. Ésaü, laboureur comme Caïn, est condamné, déshérité. L'art, l'industrie sont condamnés, aussi bien que l'agriculture, dans la figure de Tubal-Caïn. Les constructeurs sont flétris, raillés, et ils n'aboutissent qu'à la vaine œuvre de Babel. Le vrai juif, le patriarche, est le berger spéculateur qui sait augmenter ses troupeaux par un soin intelligent d'acquisition et de calcul. Il plaît à la femme, sa mère Rebecca, et il semble étonnamment femme, plus que prudent dans ses soumissions, ses adorations, nos frères Ésaü, auxquels si subtilement il a ravi le droit d'aînesse. Le fils chéri de Jacob, c'est l'esclave qui devient vizir. C'est le financier Joseph, devin d'abord, qui s'élève par l'interprétation des songes. Histoire impossible en Égypte, où Lyxos, le berger, considéré comme impur, aurait trouvé tout fermé, mais fort naturel en Chaldée, où les Tobie, les Mardoché, les Daniel sont devins, vizirs, argentiers. La grande et vraie gloire des Juifs qu'ils ont due à leur misère, c'est que, seuls entre les peuples, ils ont donné une voix pénétrante, éternelle, au soupir de l'esclave. Ailleurs, c'est un mot, un cri à peine émis, comprimé. Ici, pendant plusieurs siècles, continuent les chants de douleur, admirables et profonds, tels que la plupart des hommes, dans leur deuil, dans leur chagrin personnel, les plus sincères, se contentent de les emprunter. C'est que le Juif eut le malheur au complet, sous toutes ses formes les plus dures. Berger errant, puis enlevé en Égypte, et ouvrier malgré lui, il est cruellement fixé au travail des pyramides. Je le vois en Palestine, agriculteur malgré lui. Les lois dites mosaïques font de terribles efforts pour le pousser à la culture. On organise des fêtes agricoles et rurales. Il n'en reste pas moins agité, inquiet, nomade d'esprit. Pour le misérable esclave, essentiellement lucifuge, la nuit, c'est la liberté. Les psaumes et les chants des prophètes, la plupart, sont des chants de nuit. Il a travaillé sa vigne, la nuit est venue, se ferme, sous le ciel étincelant, étendu sur sa terrasse, il dort un moment, s'éveille. Les lions qu'il a dans le cœur bondissent. C'est un rugissement, rougiébam, mais bientôt les larmes viennent. Ah ah, Domine Deus! Dieu n'entend pas. Celui qui souffre crie, l'appelle d'autant plus. Levez-vous, dormez-vous, Seigneur. Attendez-vous que je meure. Les morts ne vous loueront pas. Ce qui est original et infiniment touchant dans ces longues alternatives, c'est que les aridités, les langueurs, la lenteur de Dieu qui ne daigne l'écouter, il n'en accuse que lui-même. Il se frappe la poitrine. Assis sous le genévrier, il dit « Reprenez-moi, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Combien ceci est différent, non seulement de l'arabe indomptable de l'Hedjaz, en Tars, mais de celui de l'Idumée, le noble disputeur Job, dans sa querelle avec Dieu. On sent dans ce violent poème que Job, accablé à la fin, s'il se tait et fait silence, ne se tient pas pour battu. Dieu lui parle avec fracas de Léviathan, de tonnerre, etc. Ses arguments de la force ne sont pas des arguments. Job garde en lui sa pensée. « Tu es fort, mais je suis juste. » Tout autre est la pensée du Juif. Il n'a pas l'expansion du désert et du libre arabe, de sa vaste respiration, de cette vie haute et fière dont Job se rend le témoignage. La plus grande misère de l'esclave, c'est de se sentir les vices qu'entraîne avec lui l'esclavage, d'y corrompre sa volonté. Aussi, dans ses lamentations, nulle douceur et nulle innocence. Ce ne sont chants de rossignol. On y entend des cris sinistres d'oiseaux de nuit ou le plantus d'un cœur qui, dans la pénitence, se sent plus impur encore. Mais l'orgueil a pris le dessus. Dieu me tiendra lieu de justice. Dieu ne m'impute pas mes fautes. Qu'il soit béni jusqu'à l'aurore et de l'aurore jusqu'au soir. Benedicam iusque in noctem. Et cependant, les ténèbres s'éclaircissent. À l'horizon se dessine un noir caroubier sur un ciel d'un gris lumineux. Le jour enfin va venir. Si les pleurs coulent le soir, la joie viendra le matin. Il est venu, la mer morte étincelle. Et même avant que le soleil ait passé la cime chauve des mornes collines, sa rouge image ensanglante tout à coup les lugubres eaux. Ainsi bientôt va venir le libérateur, le vengeur, Yahoh ou Jéhovah. Cette conception d'un dieu vengeur, exterminateur, est le besoin profond de l'esclave. Il la couve, c'est son cher trésor. Le vague Yahoh de Chaldée, qui n'était qu'un souffle de vie, le sombre Yahoh phénicien, voix de mort et voix de deuil. Ici, c'est l'âme du désert. Tournez-vous vers le midi. Tout finit, la vie expire. Ni animaux, ni végétaux, nulle forme visible. En revanche, une puissance invisible se fait sentir. Souffle embrasé qui rappelle le typhon égyptien. On ne voit rien et pourtant on ne peut se tenir en face. Il a pu dire à Moïse, « Si tu me vois, que ce soit par le dos ou tu es mort. » Ce Dieu terrible, sauvage, on s'en éloigne sans cesse et toujours on y revient. Chose étonnante, miracle, nullement. Avec toutes ces lois gênantes, c'est pourtant la liberté juive, la liberté de haïr, maudire les dieux des peuples forts. Pour comprendre cette passion pour un dieu si répulsif, ses retours fidèles, obstinés, il faut songer que le juif, sur lequel passe et repasse tout le torrent de l'Asie, est le jouet de tous ces dieux, leurs victimes. Madian, avec son dieu noir, vient, dévorante sauterelle, camper chez lui et manger tout. À chaque instant, les géants, ils nomment ainsi les Philistins, le font servir de leur Astarté, de son outrageuse orgie où Samson, David eux-mêmes ont figuré comme acteurs. Bien plus, en pleine Judée, porte à porte, les vieilles tribus cananéennes subsistent pour l'éternelle tentation du juif qu'incessamment on mêle aux danses luxurieuses de la génisse ou du veau. Culte d'énervation profonde où l'esclave, entraîné le soir, se retrouvait le matin brisé, plus esclave encore. Avec honte, avec fureur, il revenait au dieu mâle, à son Jéhovah farouche qui seul lui faisait un mur invisible de feu contre la douce pression de cette divinité de mort qui l'entourait de toutes parts. Tout cela restait obscur jusqu'à ce que, au dernier siècle, un critique pénétrant, Astruc, jeta sur la Bible une lueur de génie. Il vit la dualité, le combat de l'âme juive. Dans ce livre de la Bible qu'on croyait simple, il vit deux Bibles, et cela est resté dès lors adopté de tous les critiques. Deux religions s'y produisent côte à côte. Deux cultes divers. La religion agricole d'Élohim ou des Élohim que suivait la majorité et qui aisément se mêlait au culte cananéen de la génisse ou du veau. Une minorité plus sévère, en haine de l'idole oppressive, faisait effort pour se donner à Jéhovah l'invisible, dont l'arche était cependant décorée de figures grossières de terreur. Deux taureaux ailés. Ce dieu qui, dans les malheurs extrêmes ou dans les paniques, se confondait trop aisément avec le taureau de fer, Moloch, n'en resta pas moins l'âme de pureté orgueilleuse qui soutint, sauva le peuple, lui donna son unité. Les prophètes de Judée sont de véritables martyrs, torturés par les contrastes d'une situation violente. Ils sont les chefs populaires, représentent le vrai esprit juif contre les rois trop syriens. Ils luttent aussi contre le peuple, contre les tendances barbares des deux cultes qui le divisent, Élohim et Jéhovah. La grande affaire des prophètes, entre ces dieux opposés, est d'épurer le premier, de lui défendre l'orgie, la folie des nuits baaliques, d'humaniser le second, d'en écarter le brasier de Moloch. Les prophètes sont là admirables, vrais bienfaiteurs du genre humain, vénérables gardiens du peuple contre ces cultes qu'ils repoussent dans une lutte désespérée, souvent aux dépens de leur vie. Filii areae meae, filii tritorae meae, fils de mon air et de ma meule, vous que j'ai battus en grange, c'est vous qui êtes mes fils. Ce mot sublime d'Isaïe qui résume les prophètes a eu d'étranges conséquences. Les coups pesants, redoublés, la grêle de douleur et d'outrage n'ont pu lasser ni briser l'élasticité surprenante du patient éternel. Aplati, il se relève. Disparu, il se retrouve. Contre le présent cruel, très réel et très certain, il tient pour bien plus certain la chimère et l'impossible. Il espère contre l'espérance, et plus la tempête augmente, plus il croit que c'est là qu'enfin va se montrer le bras de Dieu. Il gémirait d'être sauvé par sa propre prévoyance. Il veut le hasard de la grâce, le salut par un coup de dé. Tendances aléatoires qui corrompent profondément le jugement de l'esclave lui font haïr la raison, désespérer de l'action. C'est l'esprit messianique qui trouble, travaille ce peuple dès ses plus hautes origines. Le livre des Juges surtout le montre admirablement. Chacune des sept captivités finit par un coup merveilleux, un hasard contre la sagesse. Le principe, tout à la fois très orgueilleux et très humble de cette curieuse histoire, c'est que le peuple de Dieu, miracle perpétuel, doit avoir une destinée constamment extraordinaire, hors de la prévoyance humaine. Dieu choisit de préférence au sein du peuple choisi pour manifester sa gloire, le faible plus que le fort, le petit plus que le grand, le cadet contre l'aîné. Au fier Judas, il préfère Joseph. Au vaillant Ismaël, au fort Ésaü, Jacob, fin et doux comme une femme. Par lui, le petit David tue le géant Goliath. Il aime pour la même raison, il s'est choisi, approprié, un petit peuple, seul élu. Le genre humain n'est rejeté. Il faut suivre la conséquence ultérieure de ce principe. Dieu aime et choisit volontiers le plus petit en mérite, qui vaut peu, ne veut, ne fait rien. Il dit, répète sans cesse, que le peuple élu est indigne. Il choisit l'oisif Abel contre le travailleur Caïn. Abel, ne faisant nul effort, n'apportant aucun mérite qui exige récompense, qui force la main à Dieu, lui plaît, et en est béni. Et voici qui est plus fort, celui qui non seulement n'a point mérité, mais qui a démérité et outragé la loi de Dieu, qui ne peut être élu, béni, que par un étonnant miracle de clémence et de bonté, sera justement celui qui glorifiera le plus la libre puissance de Dieu. Plus que le juste, il est élu. Jacob, qui fraude son frère, trompe son père, est élu. Lévi, maudit de Jacob pour trahison et pour meurtre, est le père de la tribu sainte. Judas, qui vendit Joseph et qui achète sans honte les amours impures du chemin, voyez l'histoire de Tamar, Judas est le chef du peuple et il lui donne son nom. Est-ce une préférence expresse pour le mal et le péché ? Nullement, c'est un système, une application rigoureuse du principe d'après lequel celui à qui Dieu ne doit rien, s'il est élu, manifeste d'autant plus glorieusement la miséricorde gratuite, la toute-puissance de Dieu. On dira, est-ce que ce peuple n'est pas celui d'une loi qui veut la justice ? Oui, mais cette loi est le même, exclusivement donné à un peuple favori, à un peuple que Moïse lui-même déclare indigne. Cette loi est bâtie sur un fond étranger à la justice, un fond de préférence injuste. la loi même, chargée, surchargée de prescriptions minutieuses, d'un immense formalisme étranger à la conscience, ne fait qu'endormir celle-ci. D'autant plus en suivant ces rites et toute cette vaine police, on se sent dispensé du droit. Le fond du juif est ceci. Je suis l'heureux à qui Dieu lui-même tiendra lieu de justice. Pourquoi ? Je suis le peuple élu, le fils de la faveur divine. Mais enfin, pourquoi élu ? Par quel mérite Abraham et Jacob ont-ils obtenu que Dieu fît avec eux une éternelle alliance ? Sans mérite, ils plurent à Dieu. Ainsi, cette antiquité juive donne déjà dans sa nudité la théorie de la grâce. Et l'histoire juive à côté en montre le fruit naturel, les chutes et rechutes éternelles, pleurées en vain et, sous les pleurs, la secrète sécurité de cette doctrine d'orgueil qui se ramène à ceci « Tout me sera pardonné, je suis le fils de la maison ». Que Moïse fasse sa grosse voix, qu'Isaïe tonne et foudroie, toutes ces apparences mâles n'empêcheront pas cette doctrine d'être celle de la passion, de la fantaisie féminine, du caprice de la femme qui ne veut donner de l'amour d'autre raison que l'amour, qui se croit reine en choisissant l'indigne, qui dit « comme tu es néant, tu glorifieras d'autant plus ma faveur, ma bonté, ma grâce. » C'est la désolation du juste, le découragement de l'effort, la porte fermée pour toujours à la grande volonté. La justice de Dieu, disent-ils, dépasse toutes nos justices, toutes les petites idées que le cœur de l'homme a du juste. Donc il peut punir l'innocent. Quand il punit le coupable, il est contraint de le faire, et il ne peut faire autrement. Mais quand il frappe l'innocent, le fils innocent du coupable, qu'il est grand et qu'il est Dieu, c'est à la captivité seulement, quand un événement si terrible ébranla toute existence, toute idée, tout le vieux fond, que deux captifs, deux prophètes, Jérémie, Ézéchiel, par un grand et noble effort, arrachant de leur cœur sanglant ces détestables racines, proclamèrent enfin le droit. L'infortuné Jérémie, qui très raisonnablement avait conseillé les Juifs et qu'ils appelaient un traître, affranchi à Babylone, n'usa de sa liberté que pour revenir pleurer sur les pierres de Jérusalem. Là, il eut cette belle lueur, anti-juive, anti-mosaïque, au-delà de l'ancienne loi. Le Seigneur dit « J'ai détruit, mais un jour j'édifierai ». On ne dira plus alors « Nos pères mangèrent le raisin vert et nos dents n'en sont agacées ». Chacun n'aura mal aux dents que pour ceux qui l'aura mangé lui-même, et il ne mourra qu'à cause de son propre péché. « Je ferai nouvelle alliance ». J'écrirai la loi, non plus sur la pierre, mais dans le cœur et les entrailles. L'homme n'aura plus besoin de se poser en docteur, de dire au prochain « Connais Dieu !» Car tous alors me connaîtront, les plus petits me connaîtront aussi bien que les plus grands. Ézéchiel, sur le point de la responsabilité personnelle, du salut de chacun par ses propres œuvres, est encore plus admirable. Il prévient tout équivoque, reprend par trois fois la chose, s'arrête avec une force, une lenteur, une gravité digne des juristes romains. On voit qu'il sent l'importance de la pierre sacrée qu'il fonde, celle à chaux et à ciment. Le prophète juif, le sage grec ici, s'accordent et s'embrassent. Ce chapitre d'Ézéchiel, qui pose Dieu comme juste juge, comme justice, est précisément dans l'esprit de l'Euthyphron de Socrate. Le divin n'est divin qu'en tant qu'il est juste. Les Juifs amenés en Chaldée ou émigrés en Égypte eurent un grand malheur dans l'exil. Ils firent fortune. D'un petit peuple tari, épuisé, ruiné, ils devinrent, dans ces grands empires, ce qu'ils sont restés, des tribus riches et nombreuses, faisant partout le commerce et le commerce d'argent, entrant par la petite porte, mais entrant pourtant chez les rois, qui apprécièrent leur mérite, leur forme humble et leur souplesse. Ils devinrent le médium général des affaires humaines. Sans quitter le formalisme mosaïque, la foi des prophètes, le juif en eut une autre encore, la foi au gain, à l'argent. Dans les grands bouleversements, il se dit que la richesse était seule une sûreté. Elle est pour le riche une ville, une fortification, comme une muraille dont il est entouré. Proverbe 18:11. Quelle richesse ! La plus facile à garder ou à sauver, mobile et légère, c'est l'or. Quelle ! Encore mieux, l'invisible, l'or placé dans des mains sûres. Si les Phéniciens, comme on dit, ont inventé l'écriture, les Juifs, presque aussitôt, ont inventé le billet. C'est un fait tout naturel de la vie d'esclave, inquiète, vie de lièvre entre deux sillons. De bonne heure, le juif trouve aussi la politique de l'esclave, infaillible dans les cours. Donner, donner secrètement. Un présent secret calme tout. Proverbe 21:14. La servilité monarchique, de bonne heure, est leur caractère. Le culte illimité des rois. Crains Dieu et crains le roi, mon fils. 24:22. Sa colère est signe de mort, son doux regard donne la vie, sa clémence est la pluie d'automne qui peut faire tout refleurir. 16:14-15. Mais ne va pas t'élever en honneur devant le roi, ne sois pas un grand de la terre. 25:6. Une foule de maximes semblables enseigne une extrême prudence, une obéissance parfaite, même une admiration réelle de la puissance monarchique. Le juif sera aimé des rois. Il n'est pas de meilleur esclave, plus docile, plus intelligent. Souvent, il croit que le roi est de Dieu, mais comme fléau. Proverbe 28:2. Et ce fléau, il l'honore, ne marchant donc pas à la bassesse, parce que, gardant sa loi en lui, il croit ne pas pouvoir s'avilir au-dedans. Distinction non pratique, délicate et difficile, d'être par derrière un saint, par devant le souple instrument de toutes les tyrannies du monde. La belle encyclopédie juive que l'on appelle la Bible est partout fortement marqué de ce très grand esprit d'affaires, d'habileté, d'expérience, qui devint celui des Juifs quand ils connurent, brassèrent les grands empires par la banque et l'intrigue. Pieuse intrigue, humble, prudente, déclinant les grands rôles. Ces livres faits ou refaits, arrangés, d'après des fragments anciens ou bien de souvenirs, furent lus, adoptés, arrêté par la grande synagogue qu'Esdras tint longtemps assemblée. On y a conservé nombre de traits antiques. On a gardé aussi, avec la ténacité juive, bien des choses que le sacerdoce eût pu par pudeur écarter. Ce qui frappe le plus, c'est un vrai génie du récit, vivant mais grave et sobre, de souffle contenu. Joseph, Jacob, l'homme de ruse, délecte, inspire le narrateur. Mais son favori est David, juif arabe, fin, vaillant, impur, issu de Ruth la Moabite, partant de l'inceste de Lot, le chef des gens ruinés qui s'enfuient au désert. Ce rusé politique, plus prêtre que les prêtres, charme, édifie le peuple en dansant devant l'arche, en chantant et faisant le fou. Tout cela est merveilleusement fin, fort, même d'un esprit libre. Ce qui y fait tort, c'est le plaisir avec lequel le narrateur goûte, savoure avec bonheur, passe et repasse sous la langue telle sensualité, telle rancune en vieillit. Il jouit de compter des vengeances impossibles. On ne peut croire un mot des massacres épouvantables que les Juifs auraient faits dans le pays de Canaan, de cette extermination prétendue des tribus qui subsistent après. Leurs nombreuses servitudes les mettaient fort loin, à coup sûr, de la vie guerrière des Arabes et de ses gloires de boucher. Ces récits sont pure vanterie, une revanche en paroles de tant de mots réels. Vous retrouverez de telles choses dans les chroniques monacales du temps de Charles le Chauve, dans le moine de Saint-Gall. Ce bon moine, en sa cellule, ne dit que mort et ruine. Le sang chez lui va comme l'eau. L'un de ses héros de couvent est si fort qu'il perce et porte jusqu'à 7 guerriers à la fois, tous embrochés à sa lance. Cela fait penser aux histoires extraordinaires de Josué. Du reste, ce qui attriste, ce qui peut sécher l'âme, ce sont bien moins les massacres improbables, les sensualités mauvaises que l'aridité générale. Sauf telle partie de la Genèse, des Juges et les premiers livres des Rois, l'esprit est dur et sec. Souvent la flamme y est, mais la flamme du buisson qui flambe un moment, brille et brûle, est frais, n'échauffe ni n'éclaire. Et dans la forme et dans le fond, la sécheresse est radicale. Tout le progrès des Juifs aboutit à la stérilité profonde. En note, Michelet écrit ceci. Rien ne m'a plus coûté que ce chapitre. J'aime les Juifs. Je n'ai perdu aucune occasion de rappeler leurs martyrs, leurs vertus de famille, les admirables talents qu'ils ont déployés de nos jours. Comment ne pas être touché de la destinée de ce peuple, auteur du monde chrétien, est tellement persécuté, crucifié par son fils. Dès qu'on veut être sévère, on le regrette. On se dit, ses vices sont ceux que nous lui fîmes, et ses vertus sont à lui. Respect au peuple patient, sur qui, tant de siècles durant, le monde a toujours frappé, qui de nos jours a tant souffert en Russie. Respect au peuple fidèle dont le culte antique nous garde, le type d'où l'on partit, où l'on retourne, le pontificat domestique, celui où va l'avenir. Respect à la vive énergie qui, du fond oriental, a suscité de nos jours tant de talents imprévus, savants, artistes en tout art. Et pourtant, comment se taire ? C'est par les anciens livres juifs qu'on autorise partout, qu'on sanctifie l'esclavage. Aux États-Unis du Sud, les maîtres citent les textes bibliques. En Europe, la Sainte Alliance fut jurée et se jure encore sur les livres juifs et chrétiens. Le juif, par toute la terre, a été le meilleur esclave, l'appui de ses tyrans même. Pourquoi ? Plus qu'aucun autre homme, il eut la liberté secrète du sentiment religieux qui fait porter légèrement la servitude et l'outrage. De plus, l'industrieux esprit qui exploite le tyran et qui fait de l'esclavage le champ de la spéculation. Il a de grandes destinées. Sa race étant une des plus acclimatables du globe, comme l'observe M. Bertillon, dans son précieux livre sur ce grand sujet de l'acclimatation. Fin de la note. D'un côté, le parti zélé de la loi, plus estimable qu'on a dit, les pharisiens qui, d'après la donnée de Jérémie et d'Ézéchiel, semblaient d'une pente naturelle aller aux doctrines fécondes de l'équité grecque et romaine, s'arrêtèrent dans le formalisme étroit des prescriptions mosaïques. D'autre part, le parti mystique, plus indépendant de la loi, celui qui semblait graviter vers l'amour et la grâce, loin d'y trouver le flot du cœur, tomba dans l'excentricité étrange d'un culte de grammaire, l'adoration de la langue et la religion de l'alphabet. L'hébreu, essentiellement fragmentaire, elliptique, est le plus rebelle idiome. Il exclut la déduction. la plus cruelle sentence de Jéhovah sur les prophètes fut de leur infliger une langue impossible. « Je suis bègue, dit Moïse, tous les prophètes le sont. Tous font de terribles efforts et désespérés pour parler, efforts parfois sublimes. Des dards de feu jaillissent, les éclairent la nuit qui les suit, les pénètrent eux-mêmes d'une sainte horreur. Cette langue leur semble ou divine ou Dieu même. Le scribe appelle Dieu la parole. Est-ce la parole d'Ormuz rapportée de la Perse? On le croirait, à tort. Ce que la Perse nomme ainsi, c'est l'émission de la vie, la divine manifestation de la lumière et de l'être, identique à l'arbre de vie, au fleuve universel qui part de lui, coule à ses pieds. Cette riche vie qui avait fait le paradis de l'Asie, d'arbres, de fruits, d'eau courante, est étrangère aux Juifs. L'arbre est maudit. La parole n'est plus vie, amour, génération. Elle est l'ordre, le mot de Dieu. Plus de prélude. L'être qui jusque-là venait par les voies progressives, fécondation, incubation, naît tout à coup, à sec, adulte, et comme il restera toujours. Il jaillit effrayé du néant et se précipite à genoux. Il est un coup d'état, un fait arbitraire, accidentel, de cette volonté terrible. Quelle volonté? Quel mot? Quel nom? C'est là la question, la grande inquiétude de l'homme. Le mystère universel est de connaître de quelle syllabe, de quelle lettre est le nom de Dieu. Une puissance épouvantable y est et l'on y participe dès qu'on peut prononcer ce nom. Maudits soient les profanes qui en trahiront le secret. Les sept antes veulent qu'on lapide celui qui le révélera. Ce nom s'étend de trois lettres pour exprimer, embrasser les perfections divines. Il croit jusqu'à 12 lettres, jusqu'à 42. L'alphabet est divin. Chaque lettre est une force de Dieu. C'est au moyen de l'alphabet qu'il a créé. L'homme même, par l'emploi de certaines lettres, pourrait créer, pourrait guérir. Les 32 voies de la sagesse, toutes puissantes, comprennent aussi les nombres, qui sont les lettres encore, et certaines formes de grammaire. Enfance de la décrépitude. Des pratiques puériles deviennent toute la dévotion. Les scribes s'appelaient les compteurs parce qu'ils passaient leur vie à compter les mots et les lettres que contenaient les livres saints. Tout s'allie dans le radotage. Cette magie de l'alphabet, cette bizarre superstition des lettres se mêlait, on ne sait comment, à un mysticisme unitaire où l'homme croyait se perdre en Dieu. Des choses analogues, du reste, se voient au temps chrétien. Les scolastiques arides, dans leur creuse cervelle, s'imaginent délirés d'amour. En un cœur âpre, un esprit de recherche qui veut la pointe et vise à l'étincelle, saint Augustin, saint Bernard, à l'exemple des rabbis juifs, osent croire que Dieu va descendre, consommer avec eux des noces spirituelles. Ils osent à la grande âme, la mère des mondes, offrir ce bel humain, un tel lit nuptial d'aiguilles et de silex. Ils prétendent, insolents, la posséder, cette éternelle amante. Ils entonnent le chant d'amour sur leur aigre psaltérion. Quelle chance! Ceci est le plus fort. Ce cas pathologique fera l'étonnement de l'avenir. Ils sont si loin de la nature, si dévoyés d'esprit, que tous, juifs et chrétiens, pour une chose si grave et redoutable, à faire pâlir les anges, un mariage avec Dieu, ils choisissent le champ de luxure, le champ des voluptés morbides, abandonnées de la Syrie. Spectacle en conscience diabolique et démoniaque de voir ces rabbis, ces docteurs, ces évêques, ces pères, paresser, tordre ses impuretés et, d'une bouche effroyablement grimaçante, dire solennellement les mots de l'oreiller, les plus secrets aveux d'une fille éperdue, de la furie d'amour qui ne se contient plus.